France Info. Le débrief éco avec la Banque Rhône-Alpes pour ceux qui entreprennent au cœur des territoires. Banque Rhône-Alpes, une banque du groupe Crédit du Nord.
Le débrief éco du dimanche soir en partenariat avec le Cercle des économistes. Et face à face ce soir, Jean Pisani-Ferry et Aurélie Trouvé. Jean Pisani-Ferry, vous êtes membre du Cercle des économistes. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous enseignez également à la RT School of Governance de Berlin. Et Aurélie Trouvé, vous êtes professeure en économie et porte-parole du mouvement Attaque. On va d'abord revenir, Emmanuel Cuny, sur le discours de politique générale d'Édouard Philippe. C'était mercredi dernier à l'Assemblée et le Premier ministre a détaillé l'acte 2 du quinquennat qu'il place sous le signe de l'urgence.
Oui, Édouard Philippe a obtenu une large confiance des députés pour sa deuxième déclaration de politique générale. 363 voix pour, 163 contre et 47 abstentions. Alors c'est une adhésion toutefois en très léger recul par rapport à 2017. Fiscalité, écologie, immigration, sociale, tout y est passé. Sur les sujets sociaux, le chef du gouvernement a confirmé un bonus-malus en matière d'assurance chômage pour lutter contre les contrats courts. Pour les retraites, l'âge légal sera maintenu à 62 ans, mais adaptable avec un âge pivot. Bref, ce discours est-il à la hauteur des enjeux et puis surtout des attentes?
On va écouter Édouard Philippe, justement, qui met en avant l'écologie, ce qui n'est pas très surprenant vu le résultat d'Europe Écologie Les Verts aux européennes.
Plus personne n'a aujourd'hui le monopole du vert, et c'est aussi cela le dépassement des anciens clivages. Je connais les soupçons me concernant. Je viens de la droite, j'ai travaillé dans une grande entreprise française du nucléaire, je suis élu d'une ville industrielle, je ne pourrai donc ni rien comprendre, ni rien faire. J'ai mis du temps, comme d'autres Français, à considérer que ces enjeux étaient aussi urgents que la défense de l'emploi ou la sécurité.
Alors voilà ce que disait Édouard Philippe mercredi à l'Assemblée. Aurélie Trouet, vous en avez pensé quoi de ce discours? Est-ce que c'est de nature à calmer la colère sociale en France?
Alors d'abord, je vais réagir sur l'écologie. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil dans ce qu'il annonce. C'est-à-dire tout ce qu'il annonce, ça fait déjà partie d'objectifs qui sont dans des projets de loi, en discussion ou déjà précisés dans des discours antérieurs. Et donc c'est évidemment sur les actes qu'on va attendre le gouvernement. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il n'annonce aucun budget, aucune action concrète. Et en l'occurrence, il y a aujourd'hui des projets de loi en discussion très intéressants, notamment la loi mobilité, où justement la majorité En Marche rejette toute mesure écologique ambitieuse. Par exemple, c'est le cas d'arrêter les avantages fiscaux sur les vols aériens intérieurs, ou encore de soutenir vraiment le fret ferroviaire qui irait dans le sens de l'écologie. Au contraire, le gouvernement, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut supprimer des grandes lignes de fret ferroviaire, par exemple la ligne Perpignan-Rungis, qui va du coup amener des milliers de camions par jour en plus sur les routes.
Bon, alors ça, c'est très anglais sur l'écologie, voilà, on va dire. Jean Pisani-Ferry, on rappelle que vous avez piloté, vous avez dirigé le programme économique du candidat Emmanuel Macron pour la campagne, pour la présidentielle. Comment vous avez écouté, entendu et reçu ce discours de politique générale d'Édouard Philippe?
Parlons d'abord de l'écologie, puisqu'on est dessus. Allons-y. Ensuite, on parlera des sujets plus généraux. Sur l'écologie, je ne suis pas vraiment d'accord sur le fait qu'il n'y a rien. Il y a, par exemple, sur la prime à la conversion pour les véhicules, l'idée de doubler, d'atteindre 1 million de ménages. C'est pas rien. En termes de mesures concrètes, il y a un certain nombre de choses. En revanche, je dirais il n'y a pas encore une stratégie de transition écologique. C'est d'ailleurs qu'est-ce que ça veut dire pour nos pays qui ne sont pas du tout habitués à ça, de redéfinir l'ensemble des instruments de la politique économique en fonction de cette stratégie. Il y a des questions d'objectifs économiques, qu'est-ce que c'est l'impact sur la croissance, quel est l'impact sur l'emploi et l'impact social, comment on prend ça en charge, et puis comment la machine administrative, qui n'est pas faite pour ça, qui n'a pas été construite pour ça, comment est-ce qu'elle prend en charge cette question de la transition écologique, hein. Donc là, il me semble qu'on a une collection de mesures qui ne sont pas négligeables, mais on n'a pas encore une stratégie de transition
écologique. Vous pensez qu'il y a un peu l'opportunisme dans cette affaire, au fond?
Bon, il y a une réponse, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, opportunisme si vous voulez, mais enfin, il y a une réponse à des attentes qui sont exprimées et qui sont fortes.
Alors, écologie.
En même temps qu'il n'y a pas le retour de la fiscalité carbone. Hein,
oui,
vous avez bien remarqué.
Alors, écologie mise en avant, effectivement. Sur les autres dossiers, Aurélie Trouvé, est-ce qu'on a réellement avancé ou plutôt stagné, voire reculé? Je parle là des dossiers sociaux, fiscaux.
De mon point de vue, en fait, le message des Gilets jaunes a été dévoyé, quoi. C'est-à-dire que, en fait, ce qui s'est exprimé avec les Gilets jaunes de plus en plus au fur et à mesure des semaines, c'est une demande de justice fiscale, d'avoir un impôt plus juste. Mais la façon dont répond le gouvernement, c'est moins d'impôts. Hein, c'est en fait, j'entends les Gilets jaunes, je les entends comme s'ils exprimaient de l'antifiscalisme, ce qui n'est, de mon point de vue, pas vrai. Et donc, ils annoncent, en gros, grosso modo, ça va revenir, les annonces à moins 27 milliards de recettes publiques par an, hein, dont 7 milliards de cadeaux fiscaux faits aux très riches dès le début du quinquennat qui ne sont pas remis en cause, hein, dont la suppression de l'impôt sur la fortune. Et le problème, c'est comment tout ça va être financé. Les niches fiscales, ils disent que ça va être financé par des suppressions de niches fiscales pour les grandes entreprises. En fait, ils ne s'attaquent pas aux deux grandes niches fiscales qui existaient, le crédit impôt recherche et le CICE. Et donc, ce qui va trinquer, et je vais vous passer la parole après là-dessus, c'est services publics et protection sociale plus privatisation de grandes entreprises publiques.
Alors, Jean Pisani-Ferry, la réponse, je ne sais pas, l'accusation à la défense, oui. Notamment sur le plan non, du financement, parce que comment on va aller chercher l'argent?
Alors, le financement, à mon avis, il y a quand même une bonne partie qui va être financée par les économies sur la charge de la dette. Hein, qui sont très importantes, puisque les taux d'intérêt ont baissé, on paye de moins en moins cher les intérêts sur la dette.
Mais ce n'est pas suffisant.
Ça représente l'année prochaine 10 milliards par rapport à ce qu'on prévoyait en 2017. Donc ce n'est pas rien du tout. Ça continue au fur et à mesure des années, tant que les taux d'intérêt restent bas, ça continue à s'accumuler. Ceci dit, un jour ils vont remonter, donc ce n'est pas des ressources pérennes. Ensuite, il y a effectivement un certain nombre de niches fiscales, elles ne sont pas identifiées à ce stade. Alors moi je ne suis pas du tout pour s'attaquer au CICE. Je pense que le CICE, tel qu'il a été redéfini, c'est-à-dire en allègement de cotisations social sur les bas salaires, ce n'est pas une niche fiscale pour les entreprises, c'est une mesure pour l'emploi. Faire en sorte qu'au niveau du SMIC, il n'y ait plus de cotisations sociales employeurs. Et donc ça, c'est très important. Pour le reste, oui, il y a des économies qui devront être faites sur la dépense publique.
Mais à chaque fois, il ne dit rien. Mais
pour l'instant, il n'est pas identifié. Non, il dit,
c'est le deuxième discours de politique générale.
Il dit qu'il faut revoir la gestion publique du sol au plafond.
Une
fois qu'on a dit ça, ce n'est pas encore très, très précis. Ceci dit, il y a quand même des mesures qui ont commencé à être annoncées.
Aurélie Trouvé.
Pas d'accord sur le financement.
Juste d'abord sur le CICE, je rappelle quand même qu'il y a eu plusieurs rapports de comités d'évaluation officiels qui disent que, en fait, le CICE, le crédit d'impôt compétitivité emploi, est très, très, très peu efficace en matière d'emploi et de compétitivité. Et alors, qu'est-ce qui va trinquer? Enfin, quand même, c'est pas dit dans le discours, mais on le sait. Par exemple, l'assurance chômage, où le gouvernement a annoncé qu'il y aurait plusieurs milliards par an d'économies. Et ça va pas seulement être l'assurance chômage pour les cadres et les plus riches qui va être attaqué, puisqu'il est déjà annoncé que, par exemple, on va restreindre l'accès à la aux allocations chômage, puisqu'il va falloir travailler plus longtemps dans la période qui précède le chômage. Et ça va notamment atteindre qui? Les plus précaires, ceux qui travaillent de manière la plus hachée, hein, c'est-à-dire les jeunes notamment et les femmes.
Sur le CICE, il se trouve que j'étais président du comité d'évaluation. On n'a effectivement pas identifié des effets emploi massifs, mais le problème c'est que le CICE, comme ça touche toutes les entreprises, c'est extrêmement difficile de savoir comment l'évaluer. Je pense qu'en France, on a des niveaux de SMIC relativement qui sont très élevés par rapport à d'autres pays. La contrepartie, c'est qu'on baisse les cotisations sociales au niveau du SMIC. C'est pour l'emploi des moins qualifiés.
Alors, on marque une pause. On va parler de l'Europe dans un instant.
Le débrief éco avec la Banque Rhône-Alpes pour ceux qui entreprennent au cœur des territoires. Banque Rhône-Alpes, une banque du groupe Crédit du Nord. France Info Trafic avec la carte carburant Carrefour pour les flottes de véhicules professionnels. Plus d'infos sur carte-carburant.carrefour.fr.
Et Kevin Dufresne est toujours avec nous. Il y a un bouchon maintenant sur la rocade de Rennes.
Oui, à cause d'un accident dans le sens extérieur au sud de la ville. Résultat, 4 km de bouchon jusqu'à la route de Lorient. Il vous faut plus de 20 minutes pour franchir cette difficulté.
France Info. 17h-20h. Catherine Potier.
La suite du débrief éco dans une minute et le rappel de l'info, c'est tout de suite à 19h50, Olivia Cohen.
Il était armé d'un couteau, un homme blessé à la jambe à Lyon. Cet après-midi, il voulait s'en prendre à des soldats de l'opération Sentinelle. L'incident a eu lieu dans l'enceinte de l'hôpital militaire. Plusieurs syndicats agricoles réclament ce soir des avances de trésorerie. Après les pluies et grêlons qui ont ravagé les cultures hier, les récoltes sont foutues, se désolent les agriculteurs, notamment dans la Drôme. L'état de catastrophe naturelle devrait y être décrété sous deux jours. Marine Le Pen prête à discuter avec les électeurs et les militants Les Républicains. La patronne du Rassemblement National lance Cet appel ce soir à l'issue d'un conseil national à La Rochelle en vue de préparer les municipales. Un corps, a priori celui d'un homme, retrouvé à l'aube ce matin sur une plage des Sables-d'Olonne. On ne sait pas s'il s'agit du pêcheur disparu il y a 9 jours, emporté par la tempête Miguel. 3 sauveteurs sont morts en tentant de lui porter secours. Et puis ce chalet suisse au bord d'un lac a été vendu aux enchères pour 80 000 euros en Indre-et-Loire aujourd'hui. Il s'agit du premier dessin connu du peintre Paul Gauguin. C'est un industriel français résident en Suisse qui est reparti avec.
France Info. Le débrief éco avec la Banque Rhône-Alpes pour ceux qui entreprennent au cœur des territoires. Banque Rhône-Alpes, une banque du groupe Crédit du Nord.
Le débrief éco, deuxième partie, avec Jean Pisani-Ferry du Cercle des économistes et Aurélie Trouvé, porte-parole d'Attaque. Emmanuel, parlons de l'Europe maintenant, puisque dans la nuit de jeudi à vendredi, les ministres européens des Finances se sont mis d'accord sur un futur budget propre à la zone euro. Ça, c'est une première.
Oui, les ministres ont réussi à dresser en commun les grandes lignes d'un budget unique, donc destiné à faire converger les économies des 19 pays membres de la zone euro. C'était un projet phare du président de la République, Emmanuel Macron. Obtenu après 12 heures de discussion, le texte sera présenté la semaine prochaine aux chefs d'État et de gouvernement réunis en sommet à Bruxelles. Alors, il y a encore des points à régler, mais pourquoi un tel budget limité, on va dire, à un gros noyau dur de l'Europe? C'est toute la question.
Jean Pisani-Ferry, ça apporterait quoi d'avoir un budget propre à la zone euro et déjà, par rapport à aujourd'hui?
Quelle est la différence par rapport au budget dont on parle souvent avec la PAC, notamment la politique agricole commune, qui est le budget de la Commission européenne.
Alors, l'idée initiale, c'était de dire le budget de l'Union européenne, c'est un budget qui a un certain nombre de finalités qui sont définies et dont on s'arrange pour qu'il soit jamais en excédent ni en déficit. Donc c'est un budget qui n'a pas de fonction macroéconomique. Pour la zone euro, on a besoin d'un budget qui ait une fonction macroéconomique, c'est-à-dire qui permette à un certain moment d'aider des pays qui sont en difficulté temporaire. Certains y contribuent plus et reçoivent moins et réciproquement. C'était ça l'idée initiale. C'est là-dessus que Emmanuel Macron avait initialement formulé des propositions et eu un premier accord avec l'Allemagne. Il se trouve que ce projet-là a été largement réduit à néant, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de fonction de stabilisation. Et ce qui reste, c'est un budget d'appui aux réformes et d'appui à l'investissement.
Pour éviter les crises, par exemple
Il va aider à ce que des pays qui ont des besoins d'investissement particuliers ou des besoins de réformes particuliers puissent être appuyés. Donc c'est une idée à l'arrivée qui est assez différente de l'idée de départ. Et par ailleurs, les ministres ne se sont pas mis d'accord sur le financement de ce budget. Et donc, ils se sont un dossier qui, à ce stade, est incomplet et qui va être transmis au chef d'État.
Donc, Bruno Le Maire, le ministre français de l'économie, a été un peu rapide vendredi matin en disant « ça y est, on a
écoutez,
signé ».
Je vais citer deux réactions. La réaction de Bruno Le Maire, c'est de dire « c'est une mini-révolution ». La réaction de son homologue espagnol, c'est de dire « il vaut mieux rien du tout plutôt que ça ».
Bon, c'est bien parti. Aurélie Trouvé.
Non, mais je vais poursuivre tout à fait ce qui vient d'être dit. C'est un peu la montagne qui a accouché d'une souris. Donc, le budget qui a été défini de la zone euro, il faut se rendre compte que ce qui circule dans les couloirs, parce qu'il n'y a même pas de véritable accord sur ce budget, sur le montant de ce budget, c'est à peine plus de 2 milliards d'euros par an pour les 19 pays. Comparé au budget de l'Union européenne, hein, c'est 150 milliards. Et comparé surtout aux dépenses publiques, par exemple de la France, pour vous faire une idée, c'est 1 200 milliards rien que pour la France hein, de dépenses publiques par an. C'est pour vous montrer que ces 2 milliards, c'est rien du tout. Hein. Deuxièmement, c'est que, de mon point de vue, ça ne règle pas le problème de fond des divergences auquel devait s'attaquer ce budget, des divergences entre les pays de la zone euro. Parce que le pari qui a été fait avec la zone euro, c'était qu'automatiquement, dans une zone avec une même monnaie, hein, entre ces 19 pays, il allait y avoir convergence économique entre les pays. Ce qui se passe, c'est qu'il y a eu forte divergence, c'est-à-dire que notamment ce qu'on appelle la balance commerciale et budgétaire de ces pays, eh bien, les pays excédentaires comme l'Allemagne et les Pays-Bas sont de plus en plus excédentaires, et profit d'une productivité du travail, de coûts salariaux plus faibles. Et les pays déficitaires sont de plus en plus déficitaires.
Non. Et les pays excédentaires sont de plus en plus excédentaires, mais les pays déficitaires sont revenus à l'équilibre.
C'est vrai,
ce qui fait que l'ensemble de la zone euro a un excédent vis-à-vis du reste du monde.
Vous avez raison. Par contre, ce qui se passe, le vrai problème, c'est qu'il y a un manque tout à fait important de demandes au sein de la zone euro et qu'aujourd'hui, on n'oblige pas ces pays excédentaires, type l'Allemagne, à relancer leurs demandes intérieures, alors même qu'ils ne respectent même plus les traités européens avec un excédent bien trop important.
Mais attendez, Jean Pisani-Ferry.
ceux qui défendent l'accord qui a été passé disent qu'il y avait un sujet de principe qui était extrêmement difficile, qui était de faire quelque chose pour la zone euro, avec une opposition très forte de ceux qui disent qu'il ne faut pas laisser la place à un instrument budgétaire pour la zone euro. Donc en fait, ce qui a été obtenu, c'est une concession de principe, c'est-à-dire il y aura quelque chose de spécifique pour la zone euro, logé à l'intérieur du budget de l'Union européenne, etc., mais il y aura un instrument spécifique. Et cet instrument spécifique, aujourd'hui, il est très insatisfaisant, il va être très petit, mais c'est vrai qu'on a franchi une ligne.
Mais sur le fond, Jean Pisani-Ferry, est-ce que faire converger les 19 économies de la zone euro, c'est réaliste? Est-ce que ce n'est pas plutôt utopique?
Ah ben, je pense qu'il faut sérieusement s'en occuper, parce que comme plus personne ne veut sortir, si vous voulez, on va, et que, on ne va pas laisser les pays dans des situations extrêmement différentes du point de vue de l'emploi, de la croissance, du commerce extérieur, etc., il faut trouver les moyens de les faire converger. Oui.
Aurélie Trouvé.
Bah, en fait, je pense qu'il y aurait deux moyens. C'est un, qu'on oblige d'une certaine façon ces pays hyper excédentaires à mener une politique de demande intérieure en relevant leurs salaires, en relevant leurs minima sociaux, etc. Et on ne les oblige pas du tout à le faire. C'était l'idée de Keynes suite à la Seconde Guerre mondiale, c'était de mettre des contraintes sur ceux qui ont trop d'excédents et pas seulement sur ceux qui sont déficitaires.
Ça n'a jamais marché.
Voilà. Mais on pourrait très bien... C'est à ça qu'il faudrait s'attaquer. Et deuxièmement, et c'était le grand discours à la Sorbonne d'Emmanuel Macron d'il y a deux ans, c'est de s'attaquer véritablement à une harmonisation fiscale et sociale au sein de cette zone euro. Ce qui aujourd'hui n'est pas du tout dans le cadre de ces décisions pour un budget de la zone euro.
Là, on est dans les outils, Jean Pisani-Ferry.
Oui, c'est vrai que c'est assez séparé. Non, mais sur cette idée que les pays en excédent, ceux qui ont des marges de manœuvre doivent les utiliser, on passe leur temps à leur dire.
Hein.
Mais effectivement, on ne les contraint pas. Et alors, il y avait un instrument qui pouvait marcher, qui était la politique monétaire. La politique monétaire conduisant les pays qui sont...
Ça
veut dire la BCE soutient l'activité et les pays qui sont au plein emploi comme l'Allemagne, on se dit, ils vont augmenter leur salaire. Sauf que maintenant, il y a beaucoup d'immigration en Allemagne. Il y a beaucoup d'immigration en provenance des pays d'Europe du Sud, etc. En fait, l'Allemagne rééquilibre son marché du travail avec les migrants, pas tellement les migrants venus des réfugiés, mais avec les migrants venus d'Italie, venus d'Espagne, venus de Pologne, etc. Et donc, c'est un nouveau mode d'ajustement qui est apparu dans la zone euro, qui est assez problématique parce qu'il y a des pays qui perdent leur capital humain et puis il y a un pays qui, s'enrichit.
Merci à vous trois, ce sera le mot de la fin, Jean Pisani-Ferry du Cercle des économistes, Aurélie Trouvé, porte-parole du mouvement Attac, Emmanuel Cuny, je vous dis bonne soirée.
Excellente semaine.
Bonne semaine et à dimanche.